Transversal.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transversal, émission un peu particulière puisqu'à l'occasion de la semaine du cinéma, nous avons décidé de parler, un peu à saut et à gambade, de cinéma comme il nous chante. Nous recevons aujourd'hui Estelle pour nous parler d'une œuvre de Tacita Dean qui explore les rapports entre les arts visuels et le film, et Louis, membre de Champ Libre, venu nous parler en cinéphile du film Michael. Quant à moi, Nicolas, je vous parlerai du Dogme 95, mouvement cinématographique dont Festen est l'un des films phares. Dans le cadre de la semaine du cinéma organisée par Transistor, vous avez pu assister lundi à la projection du film Festen de Thomas Vinterberg. C'est l'occasion pour moi de revenir dans cette émission sur le Dogme 95, mouvement cinématographique lancé en 1995 par Thomas Vinterberg et Lars von Trier. Festen, film de 1998, est en effet le premier film réalisé selon les préceptes de ce dogme pour le moins spartiate. Nous sommes à Paris le 20 mars 1995. Thomas Vinterberg et Lars von Trier assistent à la célébration du centenaire du cinéma au théâtre de l'Odéon. C'est à cette occasion qu'ils lancent le mouvement qu'ils venaient de théoriser quelques jours plus tôt dans la presse danoise. Ils énoncent alors les 10 principes du dogme accompagnés d'un vœu de chasteté que doit prononcer un réalisateur dogmatique. Voici sans plus attendre les 10 règles. Règle numéro 1, le tournage doit avoir lieu en décor naturel. Accessoires et décors ne doivent pas y être amenés. Si un accessoire est nécessaire à l'histoire, il faut choisir un décor naturel où cet accessoire se trouve déjà. Règle numéro 2, le son ne doit jamais être produit séparément des images et vice-versa. Aucune musique ne doit donc être utilisée, à moins qu'elle en soit jouée au moment et à l'endroit où la scène est tournée. Règle numéro 3, la caméra doit être tenue à l'épaule. Tout mouvement ou absence de mouvement faisable à la main est accepté. Ce n'est pas le film qui a lieu là où la caméra est placée, c'est le tournage qui a lieu là où l'action a lieu. Le film doit être en couleur. L'éclairage spécial n'est pas acceptable. S'il y a trop peu de lumière, la scène doit être coupée ou bien il faut monter une seule lampe sur la caméra. Règle numéro 5, trucages et filtres sont interdits. Règle numéro 6, le film ne doit contenir aucune action superficielle. Numéro 7, les aliénations temporelles et géographiques sont interdites. Le film a lieu ici et maintenant. Numéro 8, les films de genre sont inacceptables. Numéro 9, le format du film doit être un 35 mm standard. Et enfin, numéro 10, presque jamais respecté, le réalisateur ne doit pas être crédité. Quant au vœu de chasteté à prononcer, en voici le contenu. Je jure comme réalisateur de m'abstenir de tout goût personnel. Je ne suis plus un artiste. Je jure de m'abstenir de créer une œuvre, car je considère l'instant comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de forcer la vérité à sortir de mes personnages et du cadre de l'action. Je jure de faire cela par tous les moyens disponibles et au prix de tout bon goût et de toutes considérations esthétiques. Ces deux textes, on le voit, définissent des attitudes esthétiques et théoriques bien spécifiques, que vous avez pu d'ailleurs voir à l'œuvre dans Festen si vous êtes allé le voir lundi. Alors, d'abord, le dogme 95 est un mouvement polémique et délibérément provocateur. Prenant d'abord pour cible le modèle hollywoodien du blockbuster, même s'il n'est pas expressément nommé dans les textes théoriques, il faut rappeler que nous sommes à une époque où les salles danoises doivent 80% de leur fréquentation aux films américains, tandis que le cinéma danois connaît, avec ses 9%, son plus bas niveau historique. Cette attitude polémique se propose d'impulser un débat sur le cinéma tel qu'il se fait, je cite, « depuis la nouvelle vague ». Donc on voit là, la précision n'est pas le fort des auteurs, mais ce n'est pas ça l'important. Il désigne par là un cinéma que les rédacteurs considèrent en crise et qu'ils se proposent tout simplement de sauver. D'abord, les rédacteurs croisent le fer avec la vieille idée de l'artiste démiurge au centre de son œuvre et investit de l'autorité sur cette dernière. Voilà pourquoi ils critiquent ce qu'ils nomment le film individualiste, entendez par là le film d'auteur. À travers cette critique, c'est l'idée de politique des auteurs qui est contestée. Pour rappel, la politique des auteurs désigne une approche cinématographique théorisée en 1955 par François Truffaut et qui affirme la prédominance du réalisateur et de sa subjectivité dans l'œuvre. On rejette ainsi la nouvelle vague et ses lendemains dits décadents, et on appelle la mort du réalisateur comme la condition de possibilité d'une vérité cinématographique émergeant dans l'œuvre en train de se faire et sur laquelle le réalisateur interviendrait le moins possible. Cette approche critique et polémique est adossée à un contre-modèle esthétique dont l'ambition est de fournir un langage et une pratique alternatifs. C'est le but des règles énoncées précédemment. Véritable art poétique faisant l'apologie du dépouillement technique, elles visent à limiter les médiations entre le film et le filmé. Ainsi, d'un point de vue esthétique, les œuvres dogmes se caractérisent par leur facture épurée, minimaliste, laissant une grande place à l'improvisation des acteurs. Elles tendent ainsi à un réalisme brut, voire brutal, servi par le refus de l'artifice. Mais c'est aussi à un réalisme psychologique qu'elles aspirent par le choix de scénarios plus ou moins aléatoires, libérés des intrigues trop prévisibles ou n'obéissant pas à une stricte nécessité interne, par le refus des genres prédéfinis et par des personnages qui ne seraient pas stéréotypés. Pour ce qui est de la place du cinéaste, il est prié de s'effacer, car c'est en perdant le contrôle de son film qu'il s'ouvre à la contingence et laisse sa place au hasard, seul à même de permettre le surgissement d'un instant de vérité. Dogme 95 est ainsi une expérience de la pureté au cinéma et même une expérience purificatrice pour citer le communiqué qu'on peut trouver sur le site internet du mouvement. L'ambiguïté de ce terme de purificatrice rappelle que le mouvement n'est pas seulement une réforme esthétique, mais aussi une réforme éthique. Sa formulation repose ainsi sur une référence constante et un peu lourde, il faut bien l'avouer, au christianisme. On nous parle de dogmes et de 10 règles, comme il y a 10 commandements. Les cinéastes doivent prononcer un vœu de chasteté avant de devenir des frères dans le but de sauver le cinéma, tel des Christ du 7e art. La disparition du réalisateur et la critique du cinéma individualiste au profit du collectif suggèrent enfin la communauté ecclésiastique. On nous parle aussi d'éthique, de péché, d'abstinence, de repentir. Dogme 95 se présente ainsi comme une sorte de réforme du cinéma, placée sous le signe d'un renoncement et d'une discipline quasi monastique. Dans un article intitulé « Dogme 95, un mouvement ambigu entre idéalisme et pragmatisme, ironie et sérieux, engagement et opportunisme », Claire Châtelet parle ainsi d'une esthétique de l'abstinence par laquelle le cinéaste retrouverait une virginité artistique et renouerait avec le cinéma des origines, par opposition à la figure du cinéaste illusionniste qui chercherait à duper le public, pour citer les mots des rédacteurs. Cela dit, c'est un projet qui reste truffé de contradictions ou qui n'est pas sans nous laisser avec nos interrogations. D'abord parce que c'est un projet qui se présente comme cherchant à stimuler la créativité, libérer l'énergie créatrice des cinéastes et qui ne leur offre pour ça qu'une discipline austère et contraignante. Enfin, dénoncer l'illusion cinématographique par des fictions qui usent le plus souvent d'une pseudo-esthétique documentaire, c'est peut-être mentir davantage que ne le font ces films qui sont dénoncés sous le coup de l'artifice. Et puis, on peut évidemment questionner le postulat théorique qui oppose fermement la vérité à l'art et à l'individualité d'un réalisateur. Il est peut-être donc plus sage, pour sortir de cette impasse, de suivre le chemin tracé par Claire Châtelet et d'envisager le dogme 95 comme un jeu, les contraintes apparaissant alors comme les règles de ce jeu, mais il y a aussi le jeu de l'acteur, le rôle qu'on joue. Ainsi, on voit dans la posture de Lars von Trier et de Thomas Vinterberg toute une mise en scène médiatique lors de la proclamation de l'Odéon, présentée alors comme une révolution dans le monde du cinéma. Donc on joue un peu le rôle de l'avant-garde en utilisant la forme du manifeste provocateur, la posture de l'opposition et la critique de l'art bourgeois en interrogeant lourdement les notions d'œuvre et d'auteur. Enfin, la référence au christianisme, trop évidente, ne peut être qu'ironique. Quoi qu'il en soit, le dogme s'est éteint en 2005, preuve de ses limites. C'était la mort d'un mouvement que beaucoup n'ont jamais pris véritablement au sérieux, certains n'hésitant pas même à parler de canular. Néanmoins, c'est d'un point de vue un peu personnel, c'est un mouvement dont l'esthétique me séduit et j'avais été particulièrement enthousiasmé la première fois que j'ai vu Festen de Vinterberg. Et je crois qu'il y a quand même un certain nombre de chefs-d'œuvre qui sont nés de ce mouvement. À ce titre, sans vouloir critiquer la programmation de Transistor, je vous invite à aller voir Les Idiots de Lars von Trier, qui est à mon avis un film qui vaut le détour. Et maintenant, je vais laisser la parole à Louis, qui va nous parler en cinéphile, du film Michael.
Après Festen, nous ne quittons pas les joies de la famille avec Michael. Ce premier film de Markus Leinzer, jeune réalisateur autrichien, connu une présentation houleuse au dernier festival de Cannes, où il fut fraîchement reçu, et repart d'ailleurs bredouille, après avoir suscité moult polémiques, notamment dans son pays natal. Ce désamour, lié peut-être à une forme austère et au fond assez sombre, alors qu'en période de crise, le cinéma florissant est celui qui anesthésie plutôt le malaise social et se drape dans le prestige de l'évasion, The Artist notamment, poursuit le film jusqu'à aujourd'hui en salle, puisque Michael, le jour de sa sortie, ne rassemble à Paris qu'une vingtaine d'entrées, réparti, il est vrai, dans les trois seules salles où le film fut projeté. Alors, à titre d'information, j'indique tout de même, car c'est là bien sûr, c'est aussi le but de l'émission, un procès en réhabilitation qui commence, que Michael est au programme du CNP de Bellecour. Alors, Michael propose une libre variation autour de l'affaire Natacha Campouche, qui avait défrayé la chronique il y a quelques années. Le film déroule le dernier acte de l'étrange relation de Wolfgang, un garçon blondinet et prostré d'une dizaine d'années, et de son geôlier, son bourreau, qui l'a séquestré et va le violer quotidiennement, Michael donc, blafard et dégarni, cadre d'une bonne trentaine d'années dans les assurances. Le film fait le choix d'une ligne claire, refusant presque toute péripétie hors du couple qui occupe l'écran en permanence. Cette impersonnalité qui visiblement agace, jusque dans les colonnes des prestigieux cahiers du cinéma, et je cite ici un extrait de la critique de Jean-Philippe Tess. Voulant sans doute démontrer la monstruosité de nos sociétés, la banalité du mal, Markus Leinzer en conclut qu'il peut se dispenser d'avoir le moindre point de vue sur le pédophile comme sur l'enfant. Alors, la banalité du mal n'a évidemment rien d'une découverte fracassante, d'autant plus que le cinéma l'a encore récemment illustré autour d'affaires de pédophilie aussi, avec Présumé coupable, par exemple, qui met en question l'affaire d'Outreau. Remarquons déjà que ces deux films s'enracinent dans un fait divers, refusent le primat de l'imagination au profit d'une esthétique du cinéma qui n'est plus dans la sublimation, sublimation d'ailleurs du mal, pourquoi pas, on l'avait vu avec les personnages dans les années 90 d'Hannibal Lecter ou de Jonathan Doe dans Seven, mais l'auscultation ici clinique d'angoisse poisseuse. Ce n'est que par formatage dont une empathie grandissante pour Michael au cours du film, et c'est un des pièges que nous tend Schleiser, que nous essayons de dérouler. Mais à l'évidence, le film joue sur l'effet de réel, et ce dès le titre, Michael. D'abord parce que c'est l'ombre du grand Michael, Haneke bien sûr, qui plane sur le film. Funny Games particulièrement, Benny's Video et le Septième Continent qui analyse l'éclatement de l'intérieur de la famille traditionnelle minée par la violence. Mais Michael, le prénom, renvoie également au vrai prénom de l'acteur principal, Michael Fuit. Donc ce refus de distance participe au malaise du film. Michael Fuit joue à être Michael le pédophile qui lui-même ne se départit jamais devant son public de son masque de bon citoyen. Il est ce monstre étrange à la croisée d'une banalité, d'un anonymat absolu, pavillon de banlieue, physique anodin, plaisir commun du week-end entre copains aux soirées devant la télévision et de la figure du croque-mitaine contemporain, le pédophile. Cette construction originale nous incite à repérer comme dynamique de la fiction le rapport duel entre les personnages, les objets avec lesquels ils interagissent, rapport duel dont l'inquiétante porosité participe de l'intérêt de l'œuvre. À nouveau, le spectateur est renvoyé au titre. Michael, est-il alors le prénom de l'enfant ou de l'adulte ? Il est d'abord tentant de le prêter au jeune garçon vers lequel va notre pitié, avant de comprendre notre méprise les trois quarts du film passé, quand une collègue de bureau appelle l'adulte Michael. C'est un des procédés dont use le réalisateur pour que le spectateur se projette progressivement et à son insu davantage dans le pédophile que dans l'enfant et participe malgré lui à la confusion identitaire, pathologique dans certains cas, on pourrait penser au syndrome de Stockholm, entre la victime, qui entre douleur et renoncement se prête parfois au jeu, et son bourreau. Les scènes de viol ne sont jamais montrées. Effet d'autocensure, bien sûr, manœuvre également qui ménage l'empathie relative du public, mais surtout transcription dans un langage cinématographique d'une authentique relation amoureuse. Au contraire, Michael, lors d'une virée au sport d'hiver, rencontre une femme dans un bar. À peine ont-ils lié connaissance que le plan s'interrompt brutalement pour qu'à la scène suivante, le spectateur voit le protagoniste tenter de prendre par derrière la patronne, à même la table de son établissement. Sexualité d'abord décevante ici, puisque monsieur peine à bander, mais surtout montée par Schleinzer comme une séquence pornographique. Inconsistance des personnages, réduction de l'intrigue et des préliminaires à leur strict minimum, consentement immédiat de la femme, ellipse narrative pour plonger aussi rapidement que possible dans la brutalité de l'acte. Michael est lui-même consommateur gourmand, on le voit à nombreuses reprises dans le film, de séquences pornographiques ultra-violentes, dont il n'hésite pas à faire partager d'ailleurs les pères à la Wolfgang. Par exemple, je cite, « Tu préfères que je te plante avec ma queue ou mon couteau ?»
lui demande-t-il, s'inspirant du film vu la veille. Mais avec l'enfant ici, donc à la différence avec la femme, le charme n'opère plus. Non seulement parce que le membre du personnage fait alors triste figure, mais surtout parce que l'enfant, lui répondant « avec ton couteau », met fin à toute excitation et déchire le voile de confort familial et de connivence avec lequel Michael tente vainement de déguiser leur relation. La pornographie désormais, dans cette relation duelle, ne parasite plus l'image. Pourtant, c'est la société, celle donc qui avait présenté ces films pornographiques, qui entretient ce climat délétère. Et c'est elle la cible évidente de l'œuvre de Schleinzer. Société d'impuissants, frappée de débilité, puisque personne dans son milieu professionnel ou dans sa famille ne comprend ce qui se trame, et de stérilité, parce que l'érection y est molle au sens propre, sauf à l'évocation d'enfants contre lesquels donc se retourne la violence des adultes, qui a opéré donc, cette société, cette disjonction coupable entre sexe fantasmé dans la pornographie et l'amour, qui ne l'est pas moins, dans la relation entre l'adulte et l'enfant. C'est elle qui abreuve sa population de films pornographiques, c'est elle qui entretient un consumérisme effréné, avec nombreuses scènes dans les grandes surfaces, selon lequel tout s'achète, se dévore et est l'objet de convoitise, jusqu'aux enfants des autres. Michael arpente d'ailleurs les gradins d'un circuit automobile en recherche d'une nouvelle proie, avec le même intérêt soutenu que dans les rayonnages des supermarchés, et c'est elle enfin, la société, qui est politiquement responsable de ces monstres. Elle l'est d'abord politiquement dans une opposition puritaine entre un extérieur propre, une surface rassurante, et un intérieur gangréné, qui serait ici la libido déréglée de Michael, la cave où il maintient un prisonnier Wolfgang. La cave obscure, qui se lirait presque à la lumière des hypothèses d'un autre autrichien sur Freud autrement plus célèbre, symbolise ce sur quoi s'est bâtie la société autrichienne telle qu'elle se veut aujourd'hui, un pavillon de banlieue sans histoire. Mais tenace, sous-clée, plongée dans le noir, la monstruosité historique peut rejaillir avec violence dans une nation convaincue par le national-socialisme, mais jamais dénazifiée. Séquestration, autorité arbitraire du bourreau, négation de l'humanité de l'individu, les adéquations entre le calvaire de Wolfgang et l'expérience concentrationnaire font floresse. Et si les méfaits du pédophile sont le revers, le côté obscur de la société traditionnelle, celle-ci autorise pourtant bien, implicitement, pareille dérive, et sauve in extremis d'ailleurs le monstre qu'elle a elle-même engendré. Les voix de Michael et de Wolfgang se confondent une première fois dans un chant religieux de Noël, annonciateur du ton qu'allait emprunter le film. Et à la mort de Michael, une messe est donnée à sa mémoire. Avant certes toute révélation, mais les paroles du prêtre sont alors explicites. « Dieu est pressé de rappeler à lui Michael, dit-il. » Ce simulacre de rédemption paraît une réponse bien légère apportée à un crime qui échappe ainsi à la justice des hommes. Quelle légitimité aurait-il à juger ce qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes enfanté ? Donc travail, famille, patrie, tout par errance et inutile. Il reste alors le cinéma, le seul organe lucide d'un monde aux abois. Alors que la télévision entretient les fantasmes pervers, rend supportable l'intolérable, Wolfgang qui est abreuvé de télévision comme Michael, le cinéma jette courageusement au visage du public l'obscénité de leurs reflets. Quand Michael est brûlé au visage par Wolfgang, il est atteint alors dans sa toute-puissance, dépouillé de sa superbe, et refuse désormais l'image de lui-même que lui renverrait la caméra, un miroir dans la salle de bain, où il n'a même pas le courage de se regarder. Cet aveuglement sur soi-même, qui d'un cas particulier s'élargit ici bien sûr aux dimensions d'une société toute entière, lui est finalement fatal. Schleinzer, qui ne résiste pas au plaisir du didactisme, suit patiemment ensuite la mère de Michael, qui fait le bilan de la vie de son fils après sa mort, quand elle range ses affaires, tire une dernière fois les rideaux, puis descend à la cave et ouvre la porte. Le film se conclut net sur cette variation autour, bien sûr, du final de Psychose, que je laisse à chacun le soin de méditer. Car le huis clos, désormais, doit laisser place à d'autres procédés narratifs en plein jour et d'une toute autre ampleur. Un film à procès, par exemple, tel qu'on a pu le voir avec Présumé coupable. Mais c'est dans ce final une deuxième naissance, celle d'un garçon à l'enfance massacrée, qu'une mère rend alors au jour en lui permettant de sortir de la cave obscure. Le geste difficile, cruel, est pourtant là, à la mère, c'est-à-dire celle qui porte la responsabilité de son fils, d'ouvrir enfin la boîte de Pandore et d'exorciser les maux dont l'Occident n'a pas encore cessé de souffrir.
Merci beaucoup, Louis. Et bien maintenant, je me tourne vers Estelle pour nous redonner peut-être un peu de joie de vivre avec cette œuvre de ta citadine. Vas-y, Estelle.
Je ne jouerai pas, mais je vais essayer. Donc, comme on l'a compris maintenant, cette semaine, c'est la semaine du cinéma. On a donc entendu parler de dogmes cinématographiques, de films, de réalisateurs. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre une perspective légèrement différente sur la question. Qui dit cinéma dit film, qui dit film pense œuvre cinématographique, mais qui dit film dit aussi film en 16 mm ou en 35 mm,
c'est-à-dire le film entendu comme médium propre au cinéma et propre à l'artiste contemporaine dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Tacy Tudin.
Film and digital are just different medium. They're very intrinsically different. They're made differently. They're seen differently. Film is my medium, just like oil is the medium of painters. You know, I need the time of film for my work and the atmosphere of film.
Qui est Tacy Tudin? C'est une artiste d'origine anglaise qui est installée maintenant à Berlin, qui est a film artist, au sens où elle travaille uniquement à partir du film analogique, des films en 16 mm ou en 35 mm principalement. Comme elle le dit elle-même, mon médium c'est le film, de la même façon que l'huile est le médium des peintres. Quand je dis film analogique, je l'oppose au film numérique, et ça a son importance, on le verra plus tard. Donc pourquoi vous parler maintenant aujourd'hui de Tacy Tudin? C'est parce que depuis le 16 octobre à Londres, dans le Turbine Hall de la Tate Modern, dans le cadre des Unilever Series, on peut contempler une œuvre inédite de Tacy Tudin qui est créée expressément pour ce lieu. Donc pour ceux qui ne seraient pas vraiment familiers avec ce lieu, il faut rappeler que le Turbine Hall est donc le grand hall d'entrée de la Tate Modern, qui fait plus de 3000 m² et qui accueille depuis maintenant un certain nombre d'années des installations souvent gigantesques étant donné la taille du hall, des installations faites par des artistes internationaux, souvent très connus. Donc on peut retenir par exemple l'immense soleil de la forêt Eliasson, les toboggans géants qui traversaient le hall en long, en large et en travers de Carsten Höller, ou l'installation précédant celle de Tacy Tudin, celle d'Ai Weiwei, faite de milliards de graines de tournesol en porcelaine, peintes à la main et recouvrant tout le sol du Turbine Hall. Donc, choisir Tacy Tudin pour un tel lieu a d'abord étonné, dans la mesure où elle ne s'intéresse pas du tout dans son travail au spectaculaire, au monumental. Elle réalise plutôt des films discrets, silencieux, tantôt sur un couvent en Irlande, tantôt sur les anciens ingénieurs du son, foley artists, qui doublaient les baisers, les coups, les bruits de pas à l'aide d'accessoires rudimentaires comme des galets ou des tissus. Donc pour cette occasion, Tacy Tudin a créé un film muet en 35 mm que l'on peut voir sur un écran de 13 mètres de haut, tout en hauteur, en format portrait et non plus en paysage, projeté depuis l'extérieur du musée sur le mur du fond du Turbine Hall, comme venu de nulle part. Donc attention, il ne s'agit en aucun cas d'une narration, puisque ce film est constitué d'une succession de plans qui défilent, qui vacillent même, que Tacy Tudin envisage comme un poème visuel. Ces plans ont été retouchés selon des techniques spécifiques au film analogique, créant des métaphores visuelles, certains diraient des images surréalistes. Donc quand je parle de ces techniques, j'entends le masquage au ruban adhésif, la peinture à la main à même la pellicule et glassmate painting. Donc qu'est-ce que le glassmate painting? Donc, je ne savais pas non plus avant de préparer cette émission. Ça consiste à dessiner sur du verre des paysages qui ne peuvent pas être filmés car cela coûterait trop cher ou parce que ce sont des paysages difficiles d'accès. Et on dispose ensuite ces plaques de verre à la surface de la pellicule. Donc par exemple, je suis un réalisateur sans le sou, je veux filmer le Kilimandjaro. Je ne peux pas aller au pied du Kilimandjaro décemment avec mon budget. Donc je peins le Kilimandjaro sur une plaque de verre que je vais après poser sur la pellicule. Et donc quand on se retrouve face à cette œuvre dans le Turbine Hall, on pense à un vitrail profane sur lequel défileraient des visions, des morceaux du monde contemporain. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la mer, on voit des montagnes, on voit des points de couleur, on voit des aliments, plein de choses qui n'ont a priori aucun rapport entre elles, mais qui malgré tout forment justement ce qu'elle appelle un poème visuel. Donc cette œuvre, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Film. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un titre redondant et vide qu'on peut voir dans certaines expositions contemporaines. C'est un titre qui pointe vers ce qu'il faut voir dans cette installation. Car en effet, Tacy Tudin a envisagé cette installation comme une occasion unique de relayer à grande échelle son souci majeur actuel. Et quel est ce souci? C'est la disparition du film analogique comme médium.
Il faut savoir le contexte. Donc, en février dernier, le dernier laboratoire du développement de films analogiques a fermé en Angleterre. Et il en va ainsi ailleurs également. Donc, film apparaît comme un manifeste en faveur du film analogique, supplanté commercialement, mais aussi à plus petite échelle artistiquement par le film numérique. Mais alors, quelle bonne raison a-t-on de défendre, a priori, le film analogique ? Quand on lui pose la question, Tacitadine met simplement en avant le fait que c'est, je cite, « un beau médium, un médium différent, et que cela suffit à tenter de le conserver ». Donc moi-même qui avais oublié que le film analogique était un médium à part entière, j'ai tenté de comprendre à mon échelle quel était l'intérêt ou même la différence fondamentale entre le film analogique et le film numérique. Donc je me lance. Le film analogique fonctionne sur le même procédé que la photographie argentique. Il s'agit de pellicules qui recueillent la lumière comme une matière singulière qui appartient à l'endroit et au moment où l'on filme. Donc à la base, on trouve un phénomène optique simple. Chaque objet recevant les flux lumineux du soleil les diffuse, c'est-à-dire les réfléchit dans toutes les directions. Et c'est la raison pour laquelle on voit les choses, puisque les rayons sont renvoyés vers nos yeux. La pellicule s'imprègne concrètement et objectivement de ces photons. Elle les vole en quelque sorte, elle les accapare. Et de ce point de vue, elle conserve quelque chose de la situation de l'objet dans lequel il a été pris, filmé. Il ne s'agit donc pas d'une simple suite d'images qui redouble un phénomène comme dans le film numérique, mais c'est en quelque sorte une partie de la chose filmée, avec laquelle on s'enfuit sans pour autant n'avoir rien pris à la chose. Et ce processus se produit à chaque image, à chaque plan, puisqu'il s'agit d'un enregistrement instant par instant. On peut noter également comme autre différence que contrairement au numérique où les images sont mémorisées en binaire, le film a une mémoire physique. Bref, toutes ces remarques pour montrer la spécificité du film analogique, mais aussi sa valeur en tant que médium artistique. Et je souligne artistique, dans la mesure où le film analogique possède des qualités plastiques, matérielles évidentes, qui s'inscrivent dans toute une histoire artistique depuis la Renaissance et répondent à des problématiques propres à la création artistique. Montrer des parties objectives de ce qui a été, et non pas seulement l'image de ce qui a été. Une certaine partie de la peinture se damnerait pour posséder de telles ressources plastiques. Donc, au vu de ce qui a été dit, il me semble que c'est un faux procès qu'on lui intente à Tacitadine, quand on l'accuse d'être nostalgique, pour ne pas dire conservatrice, c'est-à-dire de refuser d'embrasser joyeusement le progrès du numérique. Mais c'est en tant qu'artiste plastique contemporaine, c'est-à-dire en tant que quelqu'un particulièrement sensible à la question du médium, du travail de la matière et de ce qui peut être représenté, donné à voir par tel biais et non par tel autre, qu'elle donne une valeur particulière au film analogique et le défend. Et cette perspective spécifique me paraît hautement légitime. On ne peut pas reprocher à un artisan de continuer à travailler avec les mêmes matériaux sous prétexte que d'autres sont plus pratiques, plus exploitables, plus économiques. Il ne nous viendrait pas à l'idée de reprocher aux peintres contemporains de continuer à travailler à la peinture à l'huile, alors que la peinture acrylique est tellement plus pratique d'utilisation et moins coûteuse. On peut même peut-être faire l'hypothèse que cela ne nous vient pas à l'idée de critiquer les peintres qui continuent à travailler à la peinture à l'huile, parce que nous sommes plus familiers avec les caractéristiques propres de la peinture à l'huile et parce que les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire picturale ont été peints à la peinture à l'huile. Il s'agit toutefois de rappeler que les grands classiques du cinéma ont été tournés en film analogique. Voilà tout l'intérêt du travail de Tacitadine, selon moi. C'est de nous faire découvrir, dans mon cas, ou de nous familiariser avec un médium artistique oublié, négligé, tombé en désuétude. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas tous les jours que je découvre un médium artistique et ses particularités ou ses potentialités plastiques, avec les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vais à une expo d'art contemporain. Et rien que pour ça, cette installation vaut la peine qu'on s'y attarde. Je vous invite donc, d'une part, à regarder une vidéo disponible sur Internet sur le site du Guardian, donc le lien sera sur le site, qui nous montre Tacitadine à l'œuvre et qui nous fait immédiatement prendre la mesure du travail plastique sur le film analogique. Et bien sûr, je vous invite à découvrir ce film si vous avez la chance d'aller à Londres dans les mois qui viennent. En prime, en ce moment, au même endroit, à la Tate Modern jusqu'au 8 janvier, une rétrospective sur l'immense peintre moderne Gerhard Richter, ce qui ne gâche rien.
Eh bien, merci Estelle, merci Louis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Transversa. Et bonne semaine à tous. Au revoir.